Auditeurs, auditrices du programme de Studio Kalangu, bonsoir. Il vient d'être à 18h, passé de 15 minutes dans le Studio Kalangu. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du forum de Studio Kalangu. La psyculture au Niger, enjeux et défis, c'est le thème de notre débat. Le réseau des chambres d'agriculture, RECA, estime la production annuelle de poissons au Niger entre 40 000 à 50 000 tonnes. Environ 9 000 tonnes proviennent des captures du fleuve Niger, des mares, des étangs, des producteurs locaux. La plus grande quantité de la production provient du lac Tchad. Cependant, selon une enquête de l'UMOA, la consommation nigérienne de poissons est de l'ordre de 3 kg par habitant par an, ce qui donne un peu plus de 50 000 tonnes de consommation. L'OFRA présente un fort déficit en entraînant une importation de poissons des pays voisins comme le Mali et d'autres pays côtiers. Pour combler les besoins, des habitants ont commencé à développer des activités piscicoles. Alors, qu'est-ce que la pisciculture? À quand remontent les premières expériences de pisciculture au Niger? Quel rendement et quelle part sur le marché piscicole? Et comment tirer un meilleur parti de la pisciculture au Niger? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Haroun Mayaw Ibrahim, chef division de développement aquaculture à la direction de la pêche et de l'aquaculture. M. Gauri Chaibou, pisciculteur et président de l'association des acteurs de la pisciculture. Au bout du téléphone, Mme Jamila Mahamadou, elle fait également de la pisciculture et je suis Nafis Adam Sirfou à la modération. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir chez vous. La pisciculture, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, pour planter le décor, je commence avec vous, M. Haroun Mayaw. Vous êtes le chef de division de développement aquaculture à la direction de la pêche et de l'aquaculture. Alors, quand on parle de pisciculture, qu'est-ce qu'on entend par cela?
La pisciculture, c'est l'élevage du poisson. On va dire en milieu contrôlé ou semi-contrôlé. Très souvent, au Niger, on fait la culture en milieu semi-contrôlé. Mmh. C'est-à-dire que certains paramètres sont maîtrisés, tandis que d'autres ne le sont pas. On ne peut pas quand même parler de la pisciculture sans parler de la pêche. La pêche, c'est juste le fait de prendre des poissons dans des eaux naturelles. Mmh. Et quant à la pisciculture, elle consiste à l'élevage des espèces de poissons.
Et l'élevage hors du fleuve?
L'élevage, on peut faire l'élevage dans le fleuve, à travers les cages flottantes. On peut faire l'élevage dans les lacs, on peut faire dans les rivières, on peut faire dans des étangs, on peut faire même dans des bacs hors sol.
Et chez soi, on peut faire de la pisciculture dans
sa
propre maison?
On peut faire de la pisciculture chez soi, par exemple dans des étangs ou dans des bacs hors sol. Des étangs, c'est des pièces d'eau artificielles de dimensions maîtrisables dans lesquelles on peut faire l'élevage du poisson. Ça veut dire qu'on peut faire des étangs de petite taille dans les maisons. En fait, pour faire la pisciculture, il faut quand même s'assurer que le milieu de vie des poissons est un milieu sain. Mmh. Il ne faut pas qu'on utilise de l'eau de la pompe. Parce que parfois, il faut faire des études de la qualité. Mmh. De la qualité des eaux. Si elles contiennent des substances, par exemple, comme le chlore ou les nitrates, il est un peu difficile de faire de la pisciculture parce que certains poissons D'ailleurs, les poissons ne supportent pas le nitrate à cause de leur croissance.
D'accord. Alors, Monsieur Gauri, de plus en plus, la pratique de la pisciculture gagne du terrain ici au Niger. Aujourd'hui, selon vous, comment se présente le paysage de la pisciculture au Niger?
Ok, la pisciculture, il faut savoir que c'est une activité qui est très fascinante en réalité. Élever le poisson, et beaucoup de gens, dès qu'ils voient ça la première fois, ça les fascine. Voir un poisson dans l'eau, c'est toujours quelque chose de très fascinant. Mmh. Il faut savoir que c'est aussi une activité aujourd'hui qui peut être génératrice de revenus à condition de maîtriser les itinéraires techniques de production.
Justement,
bien sûr, parce
oui.
que... Il ne suffit pas juste de mettre le poisson dans l'eau pour que il grandisse et qu'on puisse le vendre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Oui.
Parce que si vous êtes chez vous, vous placez un bac en plastique hors sol, vous voulez élever un poisson, vous êtes soumis vraiment à une certaine technicité qui est différente de quelqu'un qui creuse dans le sol un étang pour élever le poisson.
Oui, justement, donc quel est ce procédé? Quel est le procédé à suivre pour quelqu'un qui veut pratiquer la pisciculture?
La première des choses, c'est de savoir ce que c'est que le poisson. Il a ses exigences. Il faudrait connaître le poisson, savoir quel type d'animal on a affaire avec et puis quelles sont ses exigences en termes d'environnement. Ça veut dire que l'environnement dans lequel il est et il doit être, il aura besoin de quoi? Naturellement, il aura besoin de l'eau puisque le poisson vit dans l'eau. Ça, c'est la première des choses à maîtriser. La seconde chose, dans l'environnement contrôlé dans lequel le poisson doit être mis, il faut savoir que cet environnement-là est très différent de l'environnement naturel du poisson. Donc, ce qui veut dire que le poisson d'élevage, ok, puisque c'est de ça il s'agit, n'est pas dans la nature. Donc, il n'a pas tout ce dont il peut avoir en réalité dans la nature. Ce qui veut dire qu'il faudrait combler en réalité ce vide-là qu'il a. D'abord, en tant que promoteur, il faudrait forcément avoir un espace d'élevage. Ok, pour les gens qui sont dans des environnements, par exemple dans les jardins, aujourd'hui, hein, je vous dis, il y a plus de 200 sites autour de Niamey, rien qu'autour de Niamey. Et quand vous faites la typologie de ces sites-là, vous trouvez des sites qui se trouvent dans des environnements où le sol est très perméable, où c'est des jardins peut-être, dans lesquels les bassins ont été construits, mais du fait de la perméabilité du sol, on prend des dispositions pour pouvoir conserver l'eau d'abord.
D'accord.
Soit on met des films plastiques pour contenir l'eau, ou bien carrément on met du ciment, on fait un bétonnage pour pouvoir contenir l'eau. Ça, c'est dans les environnements où on n'arrive pas à conserver l'eau de par la nature du sol. Il y a des environnements où, à côté du fleuve, où les sols sont argileux et limoneux, ces genres de sols-là, généralement, conservent mieux l'eau dans ces genres.
Et cette eau, on peut la conserver jusqu'à combien de jours, combien de semaines?
Au fait, il y a un test qu'il faut faire. Avant de creuser un bassin, on fait d'abord un test de perméabilité pour voir en réalité. On creuse un petit trou, on met de l'eau et on observe et la lame d'eau, comment est-ce qu'elle descend. Ok, au-delà du fait que le sol prend une partie, il faut savoir qu'on est dans un climat sahélien où rien que l'évaporation peut vous faire perdre jusqu'à 1 cm à 1,5 cm d'eau par jour, de lames d'eau par jour. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, dans ces sols argileux-là, c'est beaucoup plus facile de le faire sans investir beaucoup dans les films plastiques ou bien dans du béton pour conserver l'eau parce que le sol le fait bien. L'argile, dès que l'argile se gorge d'eau la première fois, toutes les molécules se lient et ils empêchent carrément une certaine infiltration. L'autre, comme j'ai parlé de typologie, il y a maintenant d'autres types qui se retrouvent en milieu urbain.
Justement, dans les maisons, dans les concessions.
Dans les maisons, aujourd'hui, vous voyez que ce n'est pas toujours évident d'avoir un espace assez grand. Ce qui veut dire que dans ce genre d'environnement où il y a un confinement, donc, les infrastructures de production ne peuvent pas être les mêmes que dehors. Donc, c'est des infrastructures de production qui sont concentrées. L'élevage est concentré dans un environnement réduit. Dans ce genre d'environnement-là, effectivement, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'engagement et de technicité pour pouvoir élever le poisson parce que du fait que l'environnement est réduit, ça veut dire que vous avez l'environnement qui se pollue vite aussi, l'environnement du poisson. Vous mettez dans un bac de 2-3 mètres carrés et cubes plutôt, vous mettez des poissons dedans, l'eau n'est pas forcément changée régulièrement, les poissons vont manger dedans, ils vont déféquer dedans et donc, la qualité de l'eau va changer
il
vite.
Il faut un suivi aussi.
Maintenant, par rapport à l'eau, vous avez posé la question liée à l'eau. Il faut savoir que pour quelqu'un qui est à côté d'un plan d'eau naturel, il est généralement utilisé. Ce sont ces eaux-là qui sont utilisées.
L'eau naturelle, c'est-à-dire
ça veut dire que les fleuves et les mares, les rivières, les gens peuvent pomper dedans. Pour les gens qui n'ont pas accès à ces plans d'eau naturels-là, ils peuvent utiliser les eaux naturelles du sous-sol en faisant carrément un forage ou un puits dans certaines zones pour pomper de l'eau et alimenter les bassins.
Donc voilà, les eaux de la pompe sont carrément...
Les eaux de la pompe ne sont pas dédiées à l'élevage du poisson, mais à la consommation humaine.
Voilà.
Du fait qu'ils soient dédiés à la consommation humaine, ce qui veut dire qu'ils sortent forcément d'un laboratoire où on prend en compte la santé humaine qui n'est pas forcément compatible avec le bien-être de l'animal parce qu'il y aura des produits comme Mayo l'a dit, qui seront introduits comme le chlore dedans, des produits pour stériliser l'eau. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas forcément et favorable pour l'élevage du poisson.
Merci pour toutes ces précisions. Je le disais, nous avons au bout de la ligne Madame Jamila Mohamed. Elle fait également de la pisciculture. Alors, Madame Jamila.
Oui, ça va bien.
Alors, nous parlons aujourd'hui de la pisciculture et nous savons que vous êtes dans le domaine. Parlez-nous de vos débuts. Une femme qui fait de la pisciculture.
Bon. J'avais commencé la pisciculture il y a 3 ans, je pense. 3 ans, 4 ans. J'avais commencé juste par passion. Ça me plaisait. J'avais développé l'idée. J'ai essayé de parler un peu avec ma famille.
Mm-hmm.
Oui, mes parents étaient contre. Seulement le papa était pour.
Ils étaient contre parce que...
Ils étaient contre parce qu'ils se disent que ce n'est pas un domaine d'une femme. Ce n'est pas un domaine d'une femme. Comment tu vas prendre une distance comme ça, à aller dans des jardins seuls, voilà, voilà, voilà.
Mmh.
Et le papa était pour lui. Donc, il m'a conseillé de commencer sur son site. J'avais commencé avec une ONG. Et je pensais que ça allait marcher avec l'ONG. Voilà, il y avait... Normalement, il y avait une suivi de la mise, de la première mise en eau jusqu'à 6 mois, jusqu'à ma première vente. Normalement, c'était prévu comme ça.
Mm-hmm.
Mais ça n'a pas marché, donc ça n'a pas trop marché avec les suivis des gens là, ça n'a pas marché et j'étais en pas d'être découragé. On a pensé, on avait fait des calculs sur 6, 7 mois, voilà. Jusque-là, je tiens le coup. Hein. Jusque-là, je tiens le coup. Mais moi, la difficulté que j'ai eu à rencontrer sur la pisciculture, c'est le suivi. Hein. Mm-hmm. Parce que je me suis lancée sans connaître c'est quoi en fait la pisciculture.
Mm-hmm. Donc, c'est comme le disait le président de l'Association des acteurs de la pisciculture. Oui, il faut connaître les techniques, les procédés avant de se lancer. Et vous êtes lancé sans connaître tout cela.
C'est juste avec le temps que j'ai eu à développer un peu comment ça se passe avec les personnes, qu'est-ce que les personnes veulent, qu'est-ce qu'elles ne veulent pas. C'est sur le terrain que je me suis expérimenté. Donc, j'avais commencé et je me suis lancé à fond. Sans avoir de l'expérience, je me suis lancé à fond.
Mm-hmm. Et malgré les difficultés, ça marche aujourd'hui, ça continue. Vous continuez toujours à élever des poissons?
Oui, je continue.
D'accord.
Je continue avec la pisciculture et un peu du maraîchage.
Et sur quel terrain vous élevez ces poissons? Dans votre concession, dans un jardin?
Non, c'est dans un jardin. C'est dans un jardin juste à quelques kilomètres de Niamey-Vertoualam.
D'accord. Et en tant que femme aujourd'hui, comment c'est facile pour vous de faire de la pisciculture?
C'est pas aussi difficile que ma famille pense. C'est pas aussi difficile.
Mm-hmm.
Je me dis, il n'y a pas un travail mieux que la femme, que le jardinage.
D'accord. Restez toujours avec nous, Madame Jamila. Alors, Monsieur Haruna Mayaou, je rappelle que vous êtes le chef de division du développement aquaculture à la direction de la pêche et de l'aquaculture. Au vu donc de l'expérience de ces pisciculteurs, quelle est votre appréciation aujourd'hui du développement de la pisciculture dans notre pays?
Effectivement, comme l'a dit le président de l'association, la pisciculture est en pleine expansion actuellement.
Oui.
Si vous constatez, vous allez voir un engouement de la part des jeunes et surtout de la part de certains retraités qui s'intéressent de plus en plus à l'activité. Parce qu'effectivement, lorsque les techniques sont maîtrisées, c'est une activité qui peut être très rentable à travers les différents maillons, que ce soit la production d'alevin, que ce soit la production d'aliments, que ce soit la production de poissons commerciales.
Alors, selon vous, aujourd'hui, quels peuvent être les vrais enjeux même de l'expérimentation de la pisciculture dans notre pays?
Aujourd'hui, la pisciculture, elle est là pour combler le déficit lié à la pêche.
Oui.
Comme vous avez vu, la pêche qui se pratique dans les plans d'eau naturels surtout, les produits de pêche n'arrivent pas à suffire aux besoins de la consommation. Il est donc important, il est urgent d'ailleurs de faire la pisciculture pour essayer de combler ces besoins. Quand vous regardez un peu, vous l'avez dit tout à l'heure, du poisson qui est importé des pays côtiers, pays comme le Mali et des pays comme la Chine, il faudrait bien que cette activité se développe pour que la protéine quand même de qualité soit à la disposition des consommateurs nigériens.
Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui notre pays est favorable à la pisciculture?
Notre pays est favorable, bien sûr, puisque vous avez vu, si on cite, vous avez un peu plus de 1000 mares qui sont permanentes ou semi-permanentes. On a le fleuve, On a des rivières comme la Koumadougou, il y a la partie du lac Tchad, il y a des vallées fossiles, il y a des eaux souterraines. Toutes ces eaux sont aptes à la pisciculture.
D'accord. Alors, M. Gawri, la pisciculture est tellement favorable à un avantage pour notre pays. Vous, aujourd'hui, quelle est la quantité que vous produisez mensuellement, annuellement? Comment ça se passe?
Il faut savoir que à ce niveau-là, on a un véritable défi à relever, c'est le manque de statistiques. Il faut être vraiment parce que on ne maîtrise pas bien les quantités produites du moment où on n'a pas mis en place un mécanisme de centralisation savoir chaque producteur en réalité quelle est la quantité, le type de poisson parfois qu'il a produit, tout ça. Donc on n'a pas des statistiques fiables par rapport à ça. On n'a pas des statistiques, mais une chose est sûre, la pisciculture, elle est là, c'est pour effectivement combler un déficit lié à la capture du poisson naturel, du moment où les ressources se raréfient. Mais il faut savoir que avec un petit bassin, rien qu'un petit bassin de 200 mètres carrés que vous faites, et que vous essayez de produire, par exemple, le tilapia, qui est le poisson le plus demandé ici autour de Niamey quand même. Donc, ce poisson-là, c'est que dans 200 mètres carrés, vous pouvez produire 1000 poissons.
En
6 mois, généralement, on prend un cycle de 6 mois. Quand vous commencez avec des poissons de 35 à 40 grammes, vous pouvez vous retrouver autour de 250 à 300 grammes pour, en réalité, les souches locales qu'on utilise ici. Donc, avec ça, vous voyez que, bon, ça vous fait déjà autour de 300 kg de poissons que vous pouvez faire, en réalité, dans un petit bassin. Donc, imaginez que rien qu'autour de Niamey, je vous dis, il y a plus de 200 sites. Hein, il y a plus de 200 sites aujourd'hui. Et sur chaque site, vous pouvez trouver, le minimum qu'on puisse trouver, c'est 3 bassins.
Donc, en un mot, le rendement, il est vraiment... énorme.
Il peut être énorme. Il peut être énorme parce qu'un bassin, par exemple, de 200 mètres carrés dans lequel on peut produire la quantité de poissons dont j'avais parlé, peut être multiplié par 2, par 3, par 4, même au-delà. Mais à condition maintenant de maîtriser la technique de production. Ça veut dire qu'il y aura des suppléments que vous allez faire par rapport à l'eau. Si vous êtes en mesure de changer l'eau régulièrement, vous pouvez augmenter la densité. Si vous êtes en mesure d'amener une alimentation complète aux poissons, vous pouvez aussi ajouter l'eau. Si vous êtes en mesure, jusqu'à un certain moment, de retirer même en réalité et les déchets qui sont produits par les poissons, vous pouvez encore augmenter. Donc tout cela, mais il faut savoir que parfois cette technicité-là, elle est dépendante en réalité de la disponibilité de l'énergie. Il faut de l'énergie, vous avez des aérateurs que vous avez mettre pour faire un apport en oxygène. Tout cela va vous demander une consommation d'électricité et vous savez que dans notre pays, parfois, on n'a pas une disponibilité continue de l'électricité. D'abord, l'électricité n'est pas partout. Dans les zones de production, il n'y a pas parfois de branchement. Vous vous retrouvez dans un jardin, il n'y a aucun poteau qui passe à côté. Même s'il y a l'énergie solaire, il faut savoir que le poisson, toutes les difficultés, c'est parfois la nuit qu'on les rencontre. Donc, si vous avez une panne d'électricité la nuit, c'est catastrophique.
D'accord. À part l'eau aujourd'hui, de quoi a-t-on besoin pour élever les poissons, parlant d'aliments?
L'alimentation. Il faut savoir que dans l'élevage, malgré que le poisson a ce qu'on appelle l'indice de conversion alimentaire le plus bas du règne, parce que c'est juste avec le poisson où tu peux donner, si tu as une bonne alimentation, jusqu'à 1 kg d'aliments pour prendre 1 kg de poids. Ça veut dire qu'on a un indice de conversion. C'est le poisson qui est l'animal qui peut avoir ça. Ok, donc l'aliment est très cher parce que le poisson, dans l'alimentation du poisson, on utilise beaucoup de protéines et surtout parfois des protéines animales qui sont chères. Donc c'est ce qui fait que l'aliment coûte cher aujourd'hui sur le marché. Pour avoir une alimentation de qualité, vous devrez débloquer plus de 3 et 730 francs le kilo.
Et c'est disponible voilà, sur nos marchés ou bien
c'est disponible parce qu'il y en a qui importent, il y en a qui le fabriquent aussi sur place. Donc, vraiment, c'est ça, c'est l'alimentation. Après, l'alimentation, au-delà de tout, vous pouvez avoir l'eau, les infrastructures, l'aliment. Mais si vous ne maîtrisez pas les itinéraires de production, vous passez à côté.
C'est on ne nourrit pas le poisson Jamila qui s'est lancé au hasard dans cette activité. Alors, Madame Jamila, vous êtes là?
Oui, c'est
alors, Monsieur Gauri vient de parler d'une variété de poissons. La plupart, ce sont les tilapias, si je ne me trompe pas. Oui. Vous, quelles sont les variétés que vous élevez aujourd'hui?
Oui, j'ai fait un peu de silure, mais...
Silure?
Oui, silure. La majorité de mes poissons, c'est les tilapias aussi.
Les tilapias également?
Les tilapias, oui.
Et comment se passe l'alimentation? Vous les produisez parce que Gauri parle d'une éventuelle exportation ou bien fabrication sur place. Comment vous procurez les aliments pour vos poissons?
Oui, en temps je prenais des aliments importés. Mais après, je me suis dit, j'ai essayé d'appliquer une formule que j'ai vue. J'ai commencé à marcher, mais j'ai trouvé ça un peu fatigant. Donc, j'ai continué avec les aliments importés.
Donc, vous continuez aujourd'hui d'importer les aliments parce que ce n'est pas facile pour vous de continuer à la fabriquer.
Voilà, c'est ça.
Sur le terrain aujourd'hui, quelles sont vos difficultés? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans cette activité de pisciculture?
Et en dehors même de la production des poissons, souvent, moi, je me dis que c'est l'écoulement même.
Justement, oui.
Moi, j'ai eu des problèmes d'écoulement du produit jusqu'à 6 mois, jusqu'à un certain niveau de croissance, 300 grammes, 250, mettons un pour découler tes poissons. Et ça décourage un peu le producteur.
Mais comment vous arrivez même à écouler vos poissons aujourd'hui?
Il y a un monsieur qui me prend ça, il part. Je lui donne un pourcentage, il va, il me donne. C'est comme ça, parce que ça ne m'arrache pas trop. C'est les calculs, il n'y a pas... La rentabilité dont on parle, moi, je ne vois pas ça. Moi, je ne vois pas la rentabilité dont on parle dans la pisciculture. Peut-être que les gens qui parlent de rentabilité énorme, ils font des chimères. Moi, personnellement, je ne vois pas la rentabilité dont on parle.
Et vous produisez également tous les 6 mois, comme Gauri?
Non. Ma première vente, je l'ai fait après une année.
Après une année,
j'ai fait ma première vente parce qu'on ne s'était pas trop bien comprise avec mes techniciens. Donc, je me suis retrouvée seule. Je n'avais pas d'autre choix que continuer à nourrir les poissons. Et les poissons, dès que ça dépasse 7 mois de l'eau, c'est plus rentable. On parle plus de rentabilité.
Alors, Madame Jamila ne voit pas la rentabilité. Un mot, monsieur.
Je ne sais pas pour le moment.
Alors, monsieur Mayo, quelle réaction après?
Ben, en réalité, comme l'a dit le président, vous savez, pour que ça soit rentable, il faut maîtriser un certain préalable. La première des choses, c'est de pouvoir s'approvisionner en alevins de qualité, c'est-à-dire des souches d'alevins qui ont une bonne croissance. Si vous prenez des souches des eaux naturelles, effectivement, vous n'allez pas avoir au bout d'un certain nombre, au bout de 6 mois d'élevage, vous n'allez pas avoir des individus qui vont dépasser les 300 grammes. Alors qu'avec les souches améliorées, on peut aller au bout de 6 mois jusqu'à 1 kilo.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette activité piscicole, elle nécessite une formation même ceux qui veulent s'y lancer?
Oui, je viens à ça. Le premier point, c'est les alevins, on avait dit tout à l'heure. Le deuxième point, c'est les aliments, l'accessibilité de l'aliment. Parfois, vous avez des aliments de qualité, mais qui vont coûter très cher.
Comme l'a
dit M. Gauri, il a bien ébauché le problème. Effectivement, c'est ça. Parfois, c'est l'aliment est là, mais il est un peu le coût est un peu élevé pour le pisciculteur. Y a aussi le problème de connaissances. Il faut aussi avoir des connaissances techniques, parce que le poisson également, comme il avait dit, c'est un animal qui est particulier parce qu'il vit dans l'eau. Et dans l'eau, vous voyez bien, même sa respiration. C'est assez compliqué. Il faudrait bien faire en sorte que l'eau soit oxygénée en permanence. Donc, une fois que ces conditions ne sont pas réunies, il est difficile que la pisciculture soit rentable.
Voilà. D'accord. Je disais, est-ce que aujourd'hui il y a des formations même qui peuvent être, qui sont données pour ceux qui veulent s'y lancer dans la pisciculture?
Il y a des privés qui assurent ces formations. Il y a Agri Innov, je crois bien, sur la route de Baleyara.
D'accord.
Le promoteur est là. Et il fait des formations régulièrement, des formations de courte durée, des formations de 3 mois régulièrement. Je crois qu'il y en a beaucoup d'autres.
Alors, j'espère que Mme Jamila a pris note. Peut-être vous pourrez vraiment vous perfectionner. Alors, vous êtes à l'écoute?
Oui, j'ai eu à participer plus de trois formations. Je ne trouve pas la formation trop intéressante. Je ne trouve pas la formation. Moi, j'ai eu à participer plus de trois formations.
Mais qui n'ont pas été bénéfiques pour vous?
Non. C'est pas aussi bénéfique.
Alors, Monsieur Gawri, un mot sur le cas de Mme Jamila.
Je crois bien, Mayo l'a dit aussi, tant qu'on ne maîtrise pas les paramètres de production, ça ne peut pas être rentable.
Elle a suivi des formations, elle dit, mais jusque-là, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous lui recommandez aujourd'hui?
Elle a suivi des formations, c'est sûr. Mais je crois bien qu'elle a besoin d'une expertise. Mmh. Ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un vienne sur place et regarde qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'il ne suffit pas de suivre des formations et retourner pour dire qu'on est en train de suivre à la lettre tout ce qu'on a appris. Mmh. Elle peut être confrontée à un problème qui est purement financier. Mmh. Par exemple, elle, si elle fait, je ne sais pas dans quel genre de milieu elle fait son élevage.
Dans un jardin, elle dit.
Dans un jardin, ok, peut-être. Pour elle, si on regarde de près, pour rentabiliser son activité, il aurait peut-être fallu revoir les conditions d'élevage. Mmh. Ça veut dire quoi? La disponibilité en eau. Je suis sûr qu'avec des techniciens qui iront sur place, en regardant un peu ce qu'elle est en train de faire, ils pourront beaucoup plus l'orienter de façon à ce que son activité soit beaucoup plus rentable. Mmh. Parfois, comme je l'ai dit, c'est des problèmes de finance qui font que on n'est pas en mesure d'appliquer toutes les connaissances apprises au cours des formations. On va vous dire que vous avez besoin de recycler l'eau peut-être 2-3 fois par jour, peut-être vous n'avez pas les moyens de le faire. Peut-être que votre forage a un débit, si vous êtes dans un jardin, je donne un exemple. Quand vous avez par exemple un bassin, je prends toujours de 200 mètres, carré de surface, vous, rien que l'évaporation, vous perdez 1,5 cm d'eau, ce qui correspond en réalité à 1,5 cm qui correspondent à pratiquement près de, je prends 2 à 3 m3 d'eau. Ok, que vous allez perdre rien que par l'évaporation. L'infiltration, vous allez perdre peut-être 1 cm, on ne sait pas. Donc là, vous vous retrouvez avec un gap à combler. Et ce gap-là, pour le combler, effectivement, d'abord, c'est de l'argent. Si vous utilisez, ça dépend des moyens d'exor que vous utilisez. Si c'est une pompe, il faut démarrer la pompe, mettre du carburant, ce qui risque de faire exploser vos coûts de production. Si c'est le solaire que vous avez, le problème du solaire, c'est que les gens n'ont pas aussi parfois les moyens d'acheter une pompe solaire à mesure de combler votre besoin en eau. Parce que les pompes solaires, il faut savoir qu'elles n'ont pas toujours un bon débit. Voilà, vous pouvez vous retrouver avec un forage dont le débit de votre pompe ne dépasse pas, en tout cas, vos besoins. Donc, tout cela, c'est des petites préoccupations techniques qui font que parfois, l'activité, les gens pensent qu'elle n'est pas rentable. Mais dans les conditions normales, en tout cas, elle est rentable parce qu'aujourd'hui, je vais revenir là-dessus, hein, il y a presque aujourd'hui, la consommation actuelle de poissons d'importation, majoritairement venus de Chine, pour le tilapia et pour le panga, ça vient de du Vietnam et de la Thaïlande, on est à presque 40 000 tonnes d'importation. Mais tout ce poisson-là est un poisson d'élevage. Alors comment les autres l'ont produit là-bas? Ils l'ont élevé jusqu'à l'amener ici et générer un bénéfice et pourquoi pas le faire à la place. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'il y a un problème quelque part.
Nous allons observer une petite pause avant de poursuivre. Alors, des difficultés, il n'en manque pas dans cette activité. Je reste toujours avec vous, M. Gawri. Au-delà des problèmes évoqués par Mme Jamila aujourd'hui, vous êtes le président de l'Association des acteurs de la pisciculture. Généralement, quelles sont les difficultés auxquelles ils font face aussi?
La première difficulté, je vous dis que beaucoup de nos acteurs sont rentrés dans l'activité sans la connaître. C'est la première difficulté comme ça. Parce que juste, on a un terrain, on a de l'eau, on pense qu'on peut élever le poisson parce que je suis allé chez X, chez Y, j'ai vu le poisson, ça m'a fasciné. Et j'appelle parfois le maçon du quartier pour construire les infrastructures, ce qui n'est pas ça. Même au niveau de la construction des infrastructures, il y a des connaissances techniques à maîtriser. Donc ce n'est pas n'importe quel maçon qui peut venir vous faire un plan pour vous implanter un bassin, ce n'est pas comme ça. L'eau a sa propre dynamique qu'il faut connaître. Et il faut tenir compte de ça pour construire des infrastructures. Parfois, on ne le sait pas. On ne sait pas parfois de quoi le poisson a réellement besoin. On prend le poisson dans la nature, on fait un déplacement. On le déplace d'un milieu naturel à un milieu contrôlé. Et après, on se dit que non, on l'a mis dans l'eau et il va grandir. Ce n'est pas comme ça. Donc, il y a beaucoup de connaissances techniques. Et je vous dis, la plupart... Aujourd'hui, tout c'est plus de 200 sites autour de Niamey, mais je vous dis, plus de 80% sont à l'arrêt. Et quand vous analysez de près les raisons pour lesquelles
de cet arrêt-là,
ils sont liés carrément à la maîtrise des itinéraires de production. Tout le problème est là. Techniquement, les gens ne le font pas. Parce qu'il ne suffit pas parfois juste d'avoir un jardin, quelques bassins, et un gardien pour dire qu'il peut arroser les plantes et aussi nourrir le poisson. Non, ce n'est pas ça.
D'accord.
Il faut un personnel qualifié. Et aujourd'hui, les personnels qualifiés qui maîtrisent les itinéraires de production, malheureusement, il n'y en a pas trop sur le marché. Il y a des écoles, des centres qui sont en train de former, mais il faut reconnaître une certaine difficulté au niveau de nos jeunes, de la jeunesse d'aujourd'hui. Ils partent parfois par contrainte ou bien parce que, bon, je pars dans une filière qui est liée à l'agriculture avec grande tâche et l'élevage, mais après, c'est pour travailler dans des projets, personne ne veut se salir.
D'accord.
Vous prenez les jeunes pour partir sur le terrain, faire le travail, ils n'en veulent pas. Ils D'accord. préfèrent toujours être à Niamey.
D'accord. Alors, Madame Jamila, je rappelle que vous faites de la psychiculture comme solution proposée par Monsieur Gauri. Il vous faut peut-être une expertise. Mais d'ailleurs, les poissons que vous élevez, d'où vous proviennent ces poissons aussi?
Et j'avais pris une souche avec le premier collaborateur, les gens qui... C'était prévu de m'accompagner. Moi, j'ai repris la première souche avec eux. Et la deuxième souche, j'ai repris ça avec un Togolais qui m'a amené ça de là-bas. J'ai deux souches là-bas.
Mais face à tous ces problèmes que vous venez d'évoquer, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour y faire face aujourd'hui? Pour vraiment valoriser votre activité psychole?
Bon, je me dis, être toujours en expérimentation. Je ne veux pas lâcher. Puis je tiens le coup. Le fait, c'est de ne pas abandonner. Je me dis que je suis en expérimentation, peut-être, et avec le temps. C'est comme il a dit, mais c'est et peut-être avec l'expertise, j'aurais à mieux améliorer le conditionnement de mes pensions.
Monsieur Gauri parlait également de questions financières. Vous avez un appui actuellement?
Non, c'est pas... Elle n'a plus, non, c'est moi. C'est moi qui gère un peu mon activité. Et je n'ai pas eu un financement. Non, pour le financement, c'est un accord personnel. C'est moi-même qui gère les dépenses et autres. Et moi, le financement, je me dis, ce n'est pas d'abord le problème. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'écoulement même. Souvent, ce n'est même pas faire grossir un poisson, c'est écouler même son produit. C'est écouler même son produit. D'abord, l'aliment qui lui coûte cher. Alors, l'aliment coûte cher. Et. Il y a l'aliment et il y a l'écoulement. Moi, c'est les trois choses qui me fatiguent.
D'accord. Alors, l'aliment et l'écoulement, Monsieur Mayeu, aujourd'hui, pour la part de cette activité psychole sur le marché, qu'est-ce qui est fait pour permettre un écoulement de leur production?
Il y a une stratégie qui a été élaborée.
Oui, justement.
La stratégie de développement de la pisciculture. Donc, un des axes traite de la mise en place des marchés qui sont incitatifs.
Oui, parlez-nous de cela.
Ben, en fait, c'est la stratégie est basée sur quatre points, en fait. Il y a l'appui à la productivité des fermes. On a aussi l'appui à la recherche, si vous voulez, pour la mise en place des souches de qualité. Il y a c'est aussi l'appui pour les marchés incitatifs. Et enfin, vous avez un appui par rapport à la professionnalisation de l'activité.
D'accord. Donc l'État prend en compte cette activité.
Oui, l'État élabore le cadre. Oui. Le cadre, c'est par exemple la loi et son décret d'application. Par exemple, la loi nouvelle 21-20-003 du 21 mars, en fait du 16 mars 2021, son décret d'application. Il y a la stratégie aussi de l'aquaculture, sans parler de la pêche.
Mmh. Ok. Alors, monsieur.
Ok. Ce qu'il faut savoir, parfois, en réalité, on ne maîtrise pas bien notre business plan. Quand on fait un business plan, avant de rentrer dans une activité, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut réellement faire. Il ne suffit pas de produire le poisson en pensant qu'il se vendra de lui-même. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, c'est au producteur de prendre toutes les mesures pour qu'à la fin de la production, que son produit puisse être écoulé. Il faudrait qu'il fasse une étude de marché, savoir à l'avance où est-ce que je dois amener mon poisson pour le vendre, ou bien procéder vraiment à la signature de certains contrats, des alliances productives, de façon à ce que, avant que je ne produise même mon poisson, je sais que il est déjà vendu en réalité, parce qu'il y a quelqu'un à qui je devrais l'amener. Mais il faut reconnaître que on a une ONG et une association qu'on appelle ADA qui fait du très bon travail dans ce sens-là, parce que ils font de la centralisation pour les acteurs. Tout celui qui produit son poisson, ils peuvent partir ramasser le poisson en fin de cycle et procéder à la vente. Il y a un point de vente où le poisson d'élevage se vend bien parce qu'il est vendu vivant, il frétille, tout le monde le voit, et les gens aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus exigeants par rapport à la fraîcheur et à la qualité du poisson. Le simple fait de le voir vivant, de l'acheter vivant, c'est déjà un gage de garantie. Donc, je crois bien que beaucoup de promoteurs peuvent s'orienter vers cette structure-là s'ils veulent vendre. Mais rien ne les empêche, eux aussi, de créer toutes les conditions de mise sur le marché de leur poisson. Le poisson est un produit périssable très vite. Donc, il va falloir maîtriser et mettre à disposition toute une chaîne, en réalité, de conservation du poisson, une chaîne de froid pour pouvoir le mettre à la disposition des clients s'ils sont un peu éloignés. Donc, parfois, c'est ce que les gens ne font pas. Les gens ne pensent pas à ça. Ils s'arrêtent là, à la fin de la production, ils commencent à prendre le téléphone et à appeler les mareuses, les femmes qui vendent, pour dire que venez prendre mon poisson. Il y a une production. Ces femmes-là ne peuvent pas ramasser tout votre temps en même temps. Et parfois aussi, les gens ne tiennent pas compte des exigences du client, parce que c'est le client qui doit acheter, le client final. Il a besoin, aujourd'hui, avec les importations, on a habitué notre clientèle à des poissons de 500 grammes et plus, même pour les tilapias. Donc, si vous produisez vous des poissons de 300 grammes, c'est sûr que vous aurez un problème à écouler cela, parce que les gens sont habitués à ce type de poisson. Il y a des clients qui exigent un produit déjà semi-transformé ou transformé. Vous ne le faites pas. Vous, par exemple, aujourd'hui, le poisson le plus facile à produire, c'est le poisson chat, les silures. Malheureusement, c'est un poisson, quand il est frais, il a une moindre valeur. D'ailleurs, c'est le poisson le moins cher s'il est frais. Mais quand vous procédez à la transformation, il prend de la valeur et il devient le poisson le plus cher.
Le plus cher, d'accord.
Bon, donc, il faut savoir tout ça et maîtriser, d'accord, je crois bien.
Alors, madame Jamila, comme le temps est contre nous aujourd'hui, comment mieux sauvegarder la pisciculture au Niger pour aboutir à des productions fructueuses?
Allô? Je vais faire peut-être un retour à l'arrière pour mieux être suivi, peut-être.
Allô?
Oui, madame.
Oui, on vous reçoit mal, vous dites?
Peut-être je dois faire une petite marche arrière pour mieux suivre l'instructif qu'ils ont parlé. Les suivis qu'ils ont parlé, peut-être je ferai une marche arrière pour essayer de réchanger beaucoup de choses. Peut-être, d'accord, beaucoup des choses que j'ai eu à faire.
D'accord.
Pour ne pas tirer, pour ne pas lâcher l'activité.
Donc, vous recommandez aussi à tous ceux qui veulent se lancer de vraiment faire ces expertises, connaître ces techniques.
Ce n'est pas ça, la erreur de moi. Moi, j'ai commencé avec beaucoup de bassins et en fin de compte, je n'arrive même pas à contrôler.
D'accord, d'accord. Merci bien. Merci bien alors, Madame Jamila. Alors, Monsieur Harouna Mayaw, aujourd'hui, quel appel à tous ceux qui veulent se lancer dans la psychiculture ou bien qui sont aujourd'hui dans la psychiculture pour valoriser cette activité?
L'appel que je vais lancer, c'est que effectivement, il faut qu'ils prennent en compte ces dimensions de production.
Mm-hmm.
Il faut qu'ils prennent en compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut chercher des alevins de qualité,
mm-hmm.
qu'il faut avoir un aliment de qualité qui va être accessible,
mm-hmm.
et il faut qu'il y ait de l'appui conséquent.
D'accord.
Et en plus, ces gens ont besoin de structures de crédit qui va soutenir ses promoteurs.
Mmh. Voilà. Alors, Monsieur Gauri, je termine avec vous. Quelles sont vos recommandations aujourd'hui pour que cette activité de la psychiculture soit vraiment valorisée dans notre pays?
À l'endroit de tous les producteurs et promoteurs de la psychiculture, la première des choses à faire, c'est la mise en norme de l'existant, des infrastructures, parce que il ne sert à rien d'avoir des centaines de sites et qu'une bonne partie ne soit pas utilisée. Donc, vraiment, qu'ils se rapprochent des organisations fêtières, qu'ils mm-hmm. se rapprochent de l'État, tous ces services déconcentrés qui peuvent les aider à expertiser au mieux, parce qu'ils ont déjà dépensé de l'argent pour mm-hmm. construire les infrastructures et les infrastructures sont là vides. Donc, de remettre en norme, de voir techniquement qu'est-ce qui n'a pas marché.
Mm-hmm.
Si le problème vient des infrastructures, qu'ils se donnent les moyens de les corriger. Si le problème vient en réalité du poisson lui-même qu'ils élèvent, qu'ils trouvent le poisson le plus adapté pour l'élevage. Si le problème vient en réalité de la conduite de l'élevage du poisson, qu'ils cherchent des techniciens qu'ils vont former, qui seront formés ou bien qui sont déjà formés, qui peuvent être disponibles pour leur faire le suivi. Si le problème vient de la commercialisation, au fait qu'ils se rapprochent beaucoup plus des organisations et de leur côté aussi étudier mieux le marché dans lequel ils sont.
D'accord.
Pour signer vraiment des alliances productives vraiment bien avant même que l'activité ne démarre.
D'accord, merci donc, merci chers invités. Donc ici s'achève ce forum. La psychiculture, comme vous l'avez entendu, gagne du terrain ici au Niger. Elle peut être rentable si seulement ceux qui s'y lancent connaissent les procédés et connaître vraiment tout ce qu'il y a autour de cette activité. C'est donc ici que se referme ce forum. Nous étions en compagnie de M. Harouna Mayaw Ibrahim. Il est le chef de division de développement aquaculture à la direction de la pêche et de l'aquaculture. M. Gauri Cheibou, il est le président de l'association des acteurs de la psychiculture. Et Mme Jamila Mahamadou, qui fait de la psychiculture. La technique est assurée par Amina Hassan. Je suis Nefissa Adam Sirfo à la présentation. À très bientôt sur le studio Kalangou pour une autre thématique.